Dans une interview publiée samedi dernier par le Washington Post, Moran Stella Yanai évoque la brutalité de son enlèvement par des terroristes du Hamas le 7 octobre dernier lors du festival de musique Nova. Elle parle de son calvaire en captivité et de ses inquiétudes pour les otages restant encore prisonniers du Hamas. Un témoignage poignant, alors attention, oreilles sensibles, s'abstenir, notamment si vous avez des enfants autour de vous.
Alors effectivement, Moran Stella Yanai, elle s'était rendue au festival Nova pour vendre ses bijoux faits main et elle espérait que ça donnerait un coup de pouce à sa carrière. Dans la matinée du 7 octobre, elle a tenté de s'échapper et pendant 5 heures, elle a couru ou marché dans un paysage désertique et à travers les champs en envoyant des messages vocaux à ses parents puisqu'elle était sûre qu'elle allait mourir. Elle a fini par tomber sur un groupe de terroristes qu'elle a convaincu qu'elle était arabe grâce à sa connaissance limitée de cette langue et en montrant le collier qu'elle portait, un collier avec son deuxième prénom en lettres arabes qui lui a été offert par un ami égyptien. Le groupe de terroristes a diffusé d'abord en direct une vidéo de Moran les suppliant dans un fossé. Dans cette vidéo, un homme l'appelle l'un des chiens juifs. Après avoir été relâchée, elle est tombée sur un autre groupe d'hommes armés et elle a utilisé les mêmes tactiques pour négocier sa libération. Après ça, elle a grimpé à un arbre pour trouver un endroit où se cacher, mais elle est tombée et s'est fracturée la cheville en 2 endroits. En boitant, elle a raconté dans cette interview qu'elle avait rencontré un groupe de terroristes plus important et mieux organisé, 13 au total qui l'ont capturée. Ils lui ont arraché la plupart de ses bijoux et l'ont embarqué dans une voiture israélienne volée.
Et à partir de ce moment-là, Lise, et tout au long de sa captivité, elle était très consciente de son corps et de ses vulnérabilités.
Dans la voiture, les terroristes l'ont placée sur leurs genoux comme s'il s'agissait d'un animal qu'ils auraient chassé. Tout au long du trajet, ils l'ont battue. Chaque fois qu'elle a essayé de fermer les yeux, le chef du groupe lui a tiré les cheveux et l'a forcé à garder les yeux ouverts, à regarder les hommes armés qu'il a fixés du regard et à voir les habitants de Gaza fêter son entrée sur le territoire. Quelqu'un a même essayé de la frapper à la tête alors que ses ravisseurs la transféraient de la voiture à l'hôpital. Le chef de groupe lui a dit « Bienvenue à Gaza ». Elle a déclaré au Washington Post « Ils avaient l'impression d'avoir gagné un prix. C'était la plus grande fête que j'ai jamais vue ». À l'hôpital, des hommes lui ont arraché ses chaussures, vidé ses poches, pris ses bijoux. Le médecin qui l'a soigné parlait hébreu. On se croyait dans un film d'horreur, c'est ce qu'elle a déclaré. C'est à ce moment-là que j'ai fait le changement dans ma tête et que j'ai compris que j'étais dans une très mauvaise situation. À partir de ce moment-là, c'était le début de la survie.
Et le médecin qui l'a ausculté lui a mis un plâtre à la cheville juste en quelques minutes.
Et lors d'un transfert entre 2 cachettes, ses gardiens, pour s'amuser, lui ont arraché son plâtre et l'ont forcé à descendre 6 étages avec des talons hauts trop grands pour ses pieds. Il lui était interdit de boiter. Elle a déclaré au Washington Post qu'elle avait avalé la douleur et s'était rappelé qu'elle devait choisir ses batailles avec soin. Elle a déménagé plusieurs fois de maison en maison pendant sa captivité, ses gardiens changeant à chaque fois. Elle dépendait d'eux pour sa survie et avait peur d'eux. Ils ne m'ont pas violée, ils ne m'ont pas touchée, a-t-elle déclaré au Washington Post. Cependant, d'autres otages qu'elle a rencontrés en captivité lui ont raconter les abus sexuels qu'ils ont subis. Leurs histoires m'ont un peu brisée, a-t-elle ajouté, mais elles m'ont aussi donné la force de me battre encore plus pour mes frères et sœurs et pour qu'ils rentrent chez eux. Moran a déclaré que ses ravisseurs étaient toujours en vue, et dormaient à côté d'elle et des autres otages. Ils étaient même présents lorsqu'elle allait aux toilettes. Ses gardiens lui disaient constamment que sa famille l'avait oubliée, qu'elle n'avait pas de pays où elle pourrait retourner. Ils lui ont dit que les voisins la tueraient si elle faisait trop de bruit et que l'armée de l'air israélienne voulait sa mort. Le deuxième jour de sa captivité, une roquette a brisé une fenêtre de la pièce où elle était détenue.
Et elle a déclaré qu'elle essayait de se préparer à la mort ou à la violence sexuelle, ce qui l'angoissait de plus en plus à chaque fois qu'elle se rendait dans une nouvelle cachette.
Les gardes inspectaient les corps des otages à la recherche de puces radio de Tsahal. Lorsqu'ils lui ont demandé d'enlever son pantalon, Moran a refusé. Elle leur a dit que c'était interdit par l'islam. Après qu'ils aient insisté, elle a redoublé d'efforts et les hommes ont finalement reculé. Dans la première maison où elle a été enfermée, des visiteurs, y compris des femmes et des enfants, sont venus la regarder et écouter les histoires que les hommes armés avaient inventées à ce sujet. Après, il lui expliquait dans un anglais approximatif de quoi il s'agissait. En gros, il disait qu'elle était une arabe qui avait trahi son pays et avait été recrutée par Tsahal. Tout au long de sa captivité, il lui a été interdit de supplier, de parler de manière audible, de pleurer ou d'exprimer une quelconque émotion, à moins qu'on lui demande de le faire. Dans l'un des lieux où elle a été détenue, les gardiens l'ont forcée à poser son visage entre ses mains, à faire une moue de petite fille perdue et à utiliser une voix douce et aiguë pour demander de la nourriture ou de l'eau. Elle se souvient que les gardiens riaient. Ils se servaient de nous comme d'un jeu, a-t-elle ajouté.
Et lors de son quatrième séjour à Gaza, eh bien, Moran a été détenue avec Noah Arghamani.
Oui, elle l'avait déjà déclaré en mai dernier dans une interview accordée à Tablette et elle a dit que lorsque Noah lui parlait, elle ne la reconnaissait même pas jusqu'à ce qu'elle la voie bouger. Elle avait reconnu la façon dont elle bougeait son corps. Lorsque Moran a été transférée de cet endroit, dans elle a serré Noah dans ses bras, bien que ça soit interdit. Elle s'était entraînée toutes les deux dans le même studio de danse à Beersheba. C'est pour ça qu'elle a reconnu ses mouvements. Au cours de sa dernière semaine de captivité, elle a été transportée dans un autre endroit où se trouvait un autre otage, Itaï Zvirsky. Ils dormaient l'un à côté de l'autre sur des matelas. Une nuit, des terroristes du Hamas les ont réveillés et ont dit à Itaï de venir avec eux. Ils ont dit à Moran, toi, tu restes. Après cela, Moran a dit à Itaï de lui écrire et il lui a demandé de faire de même. Ils se sont souri et elle lui a dit, Itaï, souviens-toi que tu es unique, l'un des hommes les plus spéciaux que j'ai jamais connus. En janvier dernier, le Hamas a annoncé la mort d'Itaï et de Yossi Charabi par le biais d'une vidéo mettant en scène Noah Arghamani, dans lequel elle annonçait elle-même la mort de ses compagnons otages. Noah Arghamani, qui est visiblement toujours en vie et captive du Hamas. Lorsque Moran a été libérée en novembre, elle a découvert qu'elle était allergique aux poux qui avaient infesté son cuir chevelu. Elle avait perdu plus de 7 kilos et était à moitié sourde à cause des explosions. Elle a également commencé une thérapie physique pour sa cheville. On lui a diagnostiqué un syndrome douloureux complexe. L'hôpital israélien qui l'a soignée lui a dit que le traitement rapide de sa cheville à Gaza avait compliqué son rétablissement. À la mi-janvier, Moran s'est rendue au Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Elle a déclaré à 150 responsables de plusieurs pays, nous ne pouvons pas accepter la possibilité d'être kidnappés lors d'un festival de musique et de ne pas en revenir. Si tous les otages ne reviennent pas, tous les citoyens devraient désormais avoir peur de danser dans un festival. Moran a ajouté qu'elle s'exprime ainsi parce qu'elle se sent obligée de parler au nom de ceux qui sont encore otages du Hamas à Gaza. Ils ne peuvent pas se défendre à l'intérieur, c'est ce qu'elle a déclaré. Je veux que mes sœurs et mes frères sortent de cet enfer. Toute l'équipe de Radio Judaïka aussi, ramenez-les à la maison maintenant.